Le magazine des Nations Unies.
Bonjour, merci de votre fidélité et bienvenue à cette émission dont voici les titres. Bintou Keïta s'engage à travailler pour une RDC stable, pacifique et prospère. La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général a livré ses bonnes dispositions cette semaine au cours de sa première conférence de presse à Kinshasa. Vous suivrez également la patronne de la MONUSCO comme invitée dans ce magazine. 123 000 Quinois et Quinoises vont bénéficier d'un secours alimentaire, dont issu d'un projet conjoint UNICEF-PAM, pour aider ces personnes, ciblées comme vulnérables, à compenser les pertes occasionnées à la suite de l'impact socio-économique de la pandémie à coronavirus. Dans cette édition, nous irons également dans la province du Tanganyika, où l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a enregistré près de 340 000 déplacés internes et environ 530 000 personnes retournées. Merci encore une fois de votre attention.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Je viens en République démocratique du Congo avec un sens aigu de responsabilité qui est la mienne, des défis qui m'attendent et pleinement consciente des attentes des autorités congolaises, mais aussi des aspirations de la population congolaise. Déclaration de Bintou Keïta ce mercredi 17 mars à Kinshasa au cours de sa première conférence de presse comme représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Honoré Missenga Kalala a participé à ce rendez-vous. Suivez notre reportage.
Cette conférence de presse est la première après son entrée en fonction et est intervenue après sa tout aussi première tournée qu'il a conduite dans l'est du pays à Goma, Bukavu, Bunia et Beni. Stabilisation, paix et développement durable en RDC, c'est ce à quoi Mme Bintou va s'employer.
Je veux vous assurer de mon engagement total pour une MONUSCO aussi efficace, réactive et proactive que possible au plus près des populations qui continuent de souffrir de la violence armée.
Et face à cette violence, la MONUSCO va maintenir la pression militaire si les groupes armés promettent notamment Bintou Keïta, non sans circonscrire le cadre de cette action.
Notre action s'inscrit dans un cadre d'appui aux institutions congolaises et non de substitution à celles-ci.
Tout en reconnaissant les difficultés et les défis qui jalonnent l'objectif de stabilisation et de pacification du pays, Mme Bintou Keïta pense aussi qu'il y a lieu d'espérer et en donne les raisons.
L'autorité de l'État continue d'avancer et de s'ancrer dans plusieurs endroits du pays, tout comme la lutte contre l'impunité, en particulier en matière de justice militaire.
Concernant le dialogue politique, la nouvelle patronne de la MONUSCO appelle tous les acteurs congolais à compter sur ses bons offices.
MONUSCO encore, cette fois en nous rendant à Butembo, au Nord Kivu, la mission onusienne a regroupé des femmes leaders d'opinion de la place dans un atelier pour parler du leadership féminin face au mandat de la MONUSCO. Reportage de Florida Kahambu.
Dans son allocution d'ouverture, le chef intérimaire du sous-bureau de la MONUSCO, Butembo, a d'abord circonscrit cette activité. Mero Awangasi.
La MONUSCO reste un partenaire du gouvernement avec un mandat de protection des civils et l'appui à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État ainsi qu'aux principales réformes de la gouvernance et de la sécurité. Pour l'occasion d'en discuter et surtout du rôle indispensable de la femme pour un environnement beaucoup plus protecteur.
Dans son exposé sur le leadership féminin, à travers le marché du travail, professeur Nostamu Kirania, enseignante et chercheuse à l'Université catholique du Graben, dans la faculté de l'économie, fait savoir que les femmes sont plus actives dans l'économie informelle qui ne permet pas leur épanouissement économique. Elle explique également que la femme fait ses activités dans un environnement difficile.
D'une manière générale, les femmes sont actives dans les secteurs informels, mais malheureusement ce secteur est peu porteur en termes de profit, mais indispensable quand même à la survie des ménages, parce que on remarque que l'esprit d'initiative des femmes avec des moyens faibles n'assurent malheureusement pas leur épanouissement économique. L'environnement des affaires est aussi généralement perturbé par des délabrements de routes, mais aussi de moyens de transport qui soient limités. Bien plus, la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, elle a affecté significativement les emplois des femmes.
Pour sa part, Georgette Kibendeloa, chef d'antenne de la CENI Butembo, pense que les femmes du Grand Nord Kivu devraient réfléchir sur leur participation au vote des lois en leur faveur en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Elle leur reproche le manque de compétitivité sur l'espace politique. Cette rencontre a été saluée par Madame Odile Mabanza, chef des bureaux urbains, genre, famille et enfants. Cependant, elle plaide pour l'implication de la MONUSCO pour amener le gouvernement congolais à respecter l'article 14 de la Constitution, prônant le respect des 30% des femmes au Parlement. Odile Mabanza recommande aussi à la MONUSCO de faciliter la connexion de la femme du Grand Nord Kivu et celle des pays voisins, afin de voir comment contribuer à la lutte contre l'insécurité dans la région.
Si le responsable de la MONUSCO en RDC pouvait nous aider, nous femmes des Grands Nord, à mener et plaidoyer à ce qu'on revoie la loi électorale concernant le respect de la parité, donc les 30%, la représentativité de la femme aux espaces de décision. Nous venons de décider à ce que la MONUSCO nous aide à faire des échanges extra-frontaliers. Ça pourrait nous aider tant soit peu.
Butembo, Florida Kaambu, Radio Kapi.
Changeons de registre avec l'UNICEF et le PAM. 123 000 personnes de la périphérie est de la ville-province de Kinshasa vont bénéficier d'une assistance alimentaire sous forme de transfert monétaire dans le cadre d'un projet conjoint de ces deux agences de l'ONU. Encore une fois, Honoré Missenga Kalala pour les détails.
Les bénéficiaires sont ciblés comme des personnes vulnérables touchées par l'impact socio-économique du coronavirus dans la capitale congolaise. Le projet est financé par l'USAID et le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement. Les 123 000 personnes habitent toutes la commune urbano-rurale de Lancélé dans la partie est de Kinshasa. Dans leur communiqué conjoint, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Programme alimentaire mondial indiquent que ces personnes dépendent du travail journalier ou du commerce informel. Et le projet vise à compenser les pertes de revenus occasionnées par la pandémie de COVID-19. Les deux agences soulignent aussi que la commune d'Incélé fait partie des zones de santé de la ville, ayant les scores les plus faibles en termes de sécurité alimentaire et d'accès aux services sociaux de base.
Pour clore ce chapitre de l'actualité de la semaine dans le système onusien à RDC, dans le cadre du mois de la femme, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé jeudi 18 mars à Kinshasa une séance académique sur les droits de la femme. Le thème de ce forum était « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 ». Une trentaine de participants, des jeunes, y ont pris part. Honoré Missenga Kalala a rencontré certains d'entre eux qui se sont exprimés sur cette activité.
On l'a dit, les droits de femmes sont des droits humains, c'est-à-dire des droits reconnus à une personne du fait de son appartenance à la race humaine. Et la femme, comme telle, appartient à la race humaine. Alors ces droits sont des droits spécifiques parce que sa nature lui vise certains comportements. Je donne un exemple par rapport à la maternité. Lorsqu'une femme a mis au monde, elle a droit au congé de maternité.
Nous avons exposé sur différentes thématiques en rapport avec la thématique, si je peux dire, principale retenue sur le cycle international par rapport à la COVID-19. La COVID-19 a eu un impact sur la femme, par rapport aux droits de la femme, parce que nous avons martelé que les droits de l'homme sont aussi les droits également de la femme. Donc la COVID-19 est venue encore restreindre le droit de la femme.
C'est vrai qu'il y a aussi la responsabilité de la femme elle-même, parce que pendant l'intervention de jeudi académique, on a eu à parler de contraintes externes et des contraintes internes. Dans les contraintes internes, on a parlé de la femme suite à tout ce qui s'est dit concernant la femme, qu'elle est incompétente, elle ne peut pas diriger. Cela a créé une sorte de complexe d'infériorité au regard de la femme. Cela fait en sorte qu'au lieu qu'elle prenne les devants, elle peut faire mieux reculer. Voilà ce qui freine aussi à ceux qui ne puissent pas avoir la promotion du leadership.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le CICR et le réseau Giving Women a organisé le 8 mars une table ronde en ligne sur la violence sexuelle contre les femmes en République démocratique du Congo. Guérison, justice, prévention. Sarah Kenati est responsable du programme de lutte contre les violences sexuelles du CICR à RDC et répond aux questions de Loré Missenga Kalala à la suite de cette table ronde.
Madame Sarah Kenati, bonjour.
Bonjour.
À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le CICR et le réseau Giving Women ont organisé le 8 mars dernier une table ronde sur le thème « La violence sexuelle contre les femmes en RDC, guérison, justice, prévention ». Qu'est-ce qui a été dit en grande ligne sur ce thème, madame?
Eh bien, tout d'abord, ce panel, c'était l'occasion pour des acteurs humanitaires de terrain qui travaillent en RDC, qui travaillent depuis longtemps en RDC, de s'asseoir ensemble et de partager leur expérience, leurs défis face à la problématique, mais aussi spécifier dans quel champ d'activité chacun s'inscrit, en fonction de nos mandats respectifs et nos orientations. C'était aussi très important, je pense, pour les membres de l'organisation Giving Women, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe concrètement en RDC par rapport aux violences faites aux femmes et aux filles, les conséquences de cette violence et surtout quels sont les besoins des survivants et comment on peut faire avancer, comment on peut aller plus loin pour améliorer les choses. En gros, l'occasion, c'était de chacun partager un petit peu nos connaissances, puis de dialoguer avec cette organisation Giving Women qui est particulièrement soucieuse d'apporter un soutien aux femmes et aux filles dans le monde. C'est un réseau de femmes très généreuses qui étaient vraiment intéressées et à l'écoute de ce qui se joue en RDC.
Donc la violence sexuelle et sexiste continue d'être un problème en RDC, comme partout ailleurs d'ailleurs.
Ça continue d'être un problème, vous avez raison, comme partout ailleurs. Ce qui est un petit peu plus compliqué, je dirais, en RDC, c'est que c'est une problématique qui s'inscrit dans le temps. C'est un problème qui a été lié au conflit au départ, et pour beaucoup, et cela continue, et puis là on est quand même sur plusieurs décennies de ce conflit qui perdure, avec les femmes et les filles qui en payent le prix fort, je dirais. Et l'autre point, c'est que c'est aussi, ça commence à prendre une ampleur sociétale en RDC. C'est-à-dire que le viol et la violence basée sur le genre en général, hein, il y a comme une banalisation de l'acte. C'est plus quelque chose qu'on va retrouver, si je puis dire, sur le champ de bataille uniquement. On va le retrouver dans diverses couches de la société qui vont atteindre beaucoup plus de personnes, d'ailleurs pas que des femmes et des filles. On en parle beaucoup parce qu'elles sont les plus affectées par ce type de violence, mais les hommes aussi sont concernés. Et puis on s'aperçoit qu'il y a une méconnaissance au niveau des droits, que les femmes et les filles connaissent de leurs droits et de leur possibilité d'accéder à ces droits. C'est pour ça que c'était aussi intéressant de discuter avec Julienne Lusengue de Sofepadi. Il y avait Maître Claudine Tsongo de la dynamique des femmes juristes. Il y avait Maître Nelly Mbangu de l'association Sauti Yamama Mukongomani qui travaille depuis vraiment très longtemps. C'est un travail de longue haleine. Hein. C'était très important, je crois, pour le CICR de s'asseoir aussi avec des organisations locales, de ne pas être seulement une organisation internationale, mais d'avoir aussi des actrices locales qui mettent en avant le leadership féminin, qui mettent en avant l'importance d'entendre la voix des femmes, de la porter autant que possible et surtout, effectivement, de travailler sur l'accès aux droits pour les femmes et les filles, leur information à ce sujet. Et puis, elle travaille aussi beaucoup sur l'implication des femmes dans le processus de paix, ce qui est un angle aussi très intéressant. C'était très chouette à écouter.
Oui, si je comprends bien ce que vous avez dû faire au cours de cette étape ronde, l'état des lieux en ce qui concerne la violence sexuelle contre les femmes dans le monde et en RDC particulièrement. Quel était votre objectif finalement au-delà de cette étape ronde?
Je crois qu'il y avait plusieurs objectifs. D'une part, c'est sensibiliser sur la question. On est aussi en pleine période de Covid. La tension médiatique est énormément, je parle au niveau international, hein, est énormément centrée sur la pandémie, ce qu'on peut comprendre, sauf qu'on oublie que le Covid n'a pas mis un terme au conflit. Le Covid n'a pas mis un terme à la violence faite aux femmes et aux violences basées sur le genre, et que du coup, c'était important aussi de donner une attention à cette problématique, de mettre la lumière sur ce qui se passe pour pas que ces victimes tombent dans l'oubli, pour pas qu'on oublie non plus les organisations qui travaillent sans relâche sur la question et qui ont encore besoin de soutien et d'attention internationale. Ça, c'était une chose. Il y avait aussi l'idée que ces panels-là, ma foi, c'est aussi l'occasion de porter la voix des victimes à travers nos voix, à travers nos expériences. Cette approche qui était intéressante, je dirais, acteurs internationaux, nationale, actrice locale, comment on est complémentaire, comment on travaille sur des sujets communs mais de façon différente en fonction de nos mandats.
Oui, mais il a été dit lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme que le Covid a amplifié les violences contre les femmes.
Oui, ça c'est une observation qu'on a vue à travers le monde, effectivement, c'est bien de le rappeler. Hein. On va dire que les violences basées sur le genre, effectivement, on a vu une hausse due aux mesures de confinement où, effectivement, on a vu une augmentation des violences, surtout domestiques, à l'intérieur des foyers. Ouais.
Vous avez fait le constat, alors quelle est la part du CICR dans la lutte contre ces fléaux, dans ces trois axes que vous avez développés, guérison, justice et prévention? Je parle de la RDC.
Le CICR a une approche qu'on qualifie centrée sur les survivants. Tout d'abord, c'est-à-dire qu'on considère que chaque victime est unique et qu'elle a des besoins uniques. Donc on essaye d'avoir l'approche la plus holistique possible, mais qui met la personne au centre. C'est-à-dire qu'on la met aussi en position un petit peu de décider, d'exprimer ses besoins. On a une écoute communautaire, on met la personne au centre, on entend ses besoins, ses craintes, ses peurs et ce qui lui est arrivé. Et on essaye d'y répondre un petit peu sur mesure pour qu'elle puisse avoir toute la discrétion dont elle a besoin, toute la confidentialité, qu'elle puisse avoir accès à de l'assistance. Alors nous, le CICR, on a une spécificité du fait de notre mandat. mandat, c'est qu'on a un dialogue bilatéral et confidentiel avec les porteurs d'armes. Donc quand ces derniers sont des auteurs de violences sexuelles, on adresse cette problématique et on travaille sur ça avec eux dans notre travail de prévention. Au niveau de ce qui est réponse, là on a une approche médicale, on va soutenir des structures de santé en RDC, on soutient aussi des structures de prise en charge psychosociale, on a un soutien aux maisons d'écoute, mais on fait aussi du psychosocial qu'on appelle l'approche intégrée dans des lieux de soins. On fait la réponse médicale et santé mentale au même endroit, tout en gardant notre approche maison d'écoute qui a un bel ancrage communautaire. Et on a une réponse également socio-économique, c'est-à-dire qu'on essaye de donner aussi une assistance cash aux victimes. On a deux types d'assistance cash. On a une qui répond à des besoins imminents, urgents, pour éviter que la personne se mette en danger et recourt à des stratégies négatives pour vivre et qu'elle s'expose à d'autres risques. Et on a une autre approche qui est plus sur le long terme. On essaye d'accompagner la personne pour qu'elle ait une réintégration sociale via un soutien économique. Retrouver un emploi, retrouver une place dans la société, je dirais, retrouver sa dignité. Parce que ce qui est le plus fort aussi, assez impressionnant en RDC, c'est la question de la stigmatisation des victimes. C'est presque une deuxième violence pour la personne. C'est-à-dire que non seulement elle a été victime de la... En plus, elle est ostracisée, elle est rejetée. Et du coup, on essaie vraiment d'inclure dans notre approche cette dimension sociale pour qu'elle retrouve une place dans la communauté et qu'elle ne soit pas mise à l'écart.
Ce mois de mars, quel message voudriez-vous partager avec les femmes de la RDC, particulièrement les jeunes congolaises, par rapport aux droits de la femme en tant que CICR?
Je pense que ce qui est le plus important en RDC et ce qui manque le plus, c'est que les femmes et les jeunes filles aient connaissance de leurs droits. C'est qu'elles aient accès à ces droits-là, mais qu'elles soient informées. Je pense qu'il y a encore un travail de vulgarisation au niveau des textes de loi pour que tout le monde en prenne conscience et qu'il y ait la possibilité que les choses avancent à ce niveau-là. Même s'il y a beaucoup de besoins, il y a aussi une présence sur le terrain d'acteurs, de plein d'acteurs, des acteurs internationaux comme nous, mais aussi des acteurs locaux. Il faudrait que toutes les jeunes congolaises puissent avoir accès à ces acteurs, à ces services qui sont disponibles. Il y a beaucoup de cliniques juridiques, il y a beaucoup d'acteurs. Nous, le CICR, on a une présence. Alors, elle est beaucoup plus liée au conflit. Donc cela n'empêche pas, on travaille quand même avec des jeunes femmes et des jeunes filles, mais on est moins dans cette démarche de justice que d'autres vont proposer. Mais dans notre travail de sensibilisation, on essaie quand même de rappeler les conséquences du viol, les besoins des victimes, là où elles peuvent trouver du soin. L'importance de rappeler, pour nous, le plus important, c'est effectivement de promouvoir le droit humanitaire international, qu'il soit respecté par les porteurs d'armes. C'est là où on va mettre l'accent. Et si j'ai un message à passer avec les jeunes femmes congolaises, c'est qu'elles font partie entièrement de la société, elles ont une place à part entière, il faut qu'elles s'y inscrivent, il faut qu'elles soient reconnues, il faut qu'elles portent leur voix, quels que soient les moyens.
Madame Sarah Kenati, merci.
Je vous en prie.
Ouvrons cette page des nouvelles en bref par le HCR dans la partie nord de la RDC. Cette agence de l'ONU accompagne les demandeurs d'asile centrafricains à travers un certain nombre d'actions. Environ 49 326 de ces demandeurs d'asile de 13 975 ménages ont été enregistrés au 14 mars 2021 dans les provinces du Nord Ubangi et du Sud Ubangi ainsi que dans le Bas-Ouélé. Une opération menée par le HCR et la Commission nationale pour les réfugiés, selon une note d'information produite par la sous-délégation du HCR Guadolité. À la MONUSCO, c'est l'arrivée dans la mission et de sa prise de fonction de M. Kassim Diagne, le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général en RDC pour la protection et les opérations. Le nouveau numéro 2 de la MONUSCO arrive à ce poste avec plus de 25 ans d'expérience dans la protection des réfugiés, les affaires politiques, la gestion et le contrôle. Depuis 2017, il était directeur de l'unité politique, maintien de la paix, humanitaire et droits de l'homme au cabinet du secrétaire général de l'ONU, après avoir été représentant régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés aux États-Unis et dans les Caraïbes. Enfin, restons à la MONUSCO avec un cas concret de protection dans le cadre de la solidarité avec les populations locales et de la protection des populations civiles. Les casques bleus du contingent indien ont organisé le 12 mars dernier une campagne médicale gratuite de 2 jours au bénéfice des femmes de Pinga et Nyanzale. Au total, 112 femmes et 25 enfants ont eu accès aux consultations médicales gratuites pendant cette journée.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le MAG UN revient sur l'entretien de Madame Bintou Keïta, réalisé au terme de sa première tournée dans l'Est de la République démocratique du Congo, tournée qu'elle a clôturée le lundi 15 mars 2021. La représentante spéciale répond aux questions de Bernardin Nyangui.
Madame Bintou Keïta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la fin d'une tournée dans les trois provinces de l'Est. Quel est d'abord le constat que vous avez par rapport à toutes les préoccupations que vos interlocuteurs ont pu vous donner?
Tout d'abord, cette tournée à l'Est était liée à deux objectifs majeurs. Le premier, c'est que je me disais, vu que nous avons une très grande partie de la mission MONUSCO basée à l'Est du Congo, il fallait faire en sorte que le personnel de la MONUSCO voit immédiatement que c'était important pour moi de aussi être en présence directe dans l'environnement où ils travaillent. Le deuxième objectif, c'est que parmi les priorités du mandat de la MONUSCO, il y a la protection des civils, le renforcement des institutions de l'État et il y a la stabilisation. Donc, vu que j'arrive et que je dois comprendre les dynamiques, c'était important pour moi de rencontrer les gouverneurs, l'Assemblée, pour les écouter de manière à pouvoir tracer une direction pour la manière dont nous allons mettre en œuvre le mandat de la MONUSCO pour travailler sur une amélioration, parce que ça, ce sont les choses que j'ai comprises. Il y a beaucoup de malentendus, d'incompréhensions sur le travail des hommes et des femmes de la MONUSCO. Et je pense qu'il y a un travail important pour qu'on ait une communication qui permette à la population de comprendre notre façon de travailler en accompagnant le pays dans ses déclinaisons au niveau central, provincial et local. Et ça, donc, stratégie de communication, on va avoir besoin de vous autres. C'est que même lorsque les communautés savent qu'ils sont protégés près des bases de la MONUSCO, ils ont cette soif de dire, même si vous faites des routes qui nous désenclavent, même si vous avez des infrastructures ou d'autres choses...
Mais pas le projet de stabilisation.
Je veux éviter d'utiliser les jargons, parce que si je parle à tout un chacun, différentes personnes vont comprendre différentes choses par stabilisation. Mais un poste de police, un centre de santé, si on appelle ça la stabilisation, tant mieux. Donc, ils disent, on est au courant de tout ça, même la sécurisation des routes. Lorsque la MONUSCO accompagne l'armée et qu'ils arrivent à chasser les groupes armés, il faut que les populations puissent sentir que, voilà, ils ont ce sentiment de sécurité qui est matérialisé par l'autorité nationale qui est présente avec les forces de sécurité qui se comportent d'une manière où la population dit, voilà, nous avons nos propres autorités qui nous défendent. On ne soit pas dans une logique où tout doit être apporté par la MONUSCO.
Il y a par exemple le DDR communautaire. Est-ce que ça peut apporter la solution ou bien...
Là aussi, pareil, je voudrais éviter de rentrer dans une dynamique où la réponse qui doit être apportée à ce que les populations demandent la paix, que ce soit vu seulement sous la forme de projet. J'ai entendu beaucoup de choses par rapport à FRPI où les gens ont dit que c'était d'abord une initiative de la communauté qui a décidé que les combattants déposent les armes. Et là, on est allé jusqu'à un certain point et puis les choses se sont arrêtées. Et maintenant, on a toute cette discussion et ces espoirs qui sont créés autour du DDRCS, donc à base communautaire et travaillant sur les aspects de stabilisation, les aspects économiques, etc. Pour moi, ça ne sera pas que ça. Il faudra aussi démobiliser dans les têtes. Il faudra aussi démobiliser dans les cœurs. Travailler sur les traumatismes que les uns et les autres vivent au quotidien. Instaurer la confiance. Et la confiance, ce n'est pas quelque chose qui se construit à travers un projet.
Si je comprends bien, Madame Keïta, il faut vraiment repenser les stratégies pour parvenir à stabiliser l'Est de la RDC.
Alors, est-ce qu'il faut repenser les stratégies? Je crois que ça va commencer par une transformation des mentalités à tous les niveaux sur, justement, la coexistence de comment on fait dans un environnement riche pour que les uns et les autres bénéficient de la richesse sans que l'utilisation de la richesse se fasse comme élément déclencheur de conflit et de perpétuation du conflit.
Madame Bintou Keïta, merci.
Merci.
Le Tanganyika enregistre près de 340 000 déplacés internes et environ 530 000 personnes retournées, selon un récent rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Plus de détails de ce rapport avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Les chiffres de l'OIM sont issus d'un cumul des résultats allant du 6 novembre au 31 décembre 2020 et couvrent l'ensemble de la province du Tanganyika. Dans cette évaluation, les équipes de terrain de l'ONG Action et Intégration pour le Développement et l'Encadrement Social, ADES, en partenariat avec la protection civile, se sont rendues dans tous les villages accessibles de tous les territoires de la province. Elles ont collecté des données auprès d'informateurs clés ainsi que des leaders communautaires. Au total, 4 360 villages ont été évalués dans 11 zones de santé. Un cumul de 337 628 personnes déplacées et 529 903 personnes retournées sont présentes dans les 85% de l'étendue de la province évaluée.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Au cours de sa première conférence de presse de mercredi 17 mars, la nouvelle chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a répondu à plusieurs questions des journalistes. Suivez l'une de ces questions ainsi que sa réponse.
Samuel Sirassi, je suis journaliste de la radio, la voix de l'université officielle de Semoliki. Ma question est la suivante. Le département d'État américain a récemment rendu public un communiqué dans lequel il désigne l'ADEF comme une branche du mouvement terroriste Daesh. Que pense la MONUSCO de ce communiqué des USA? Et quelle stratégie peut-elle définir pour s'adapter à la menace?
Merci beaucoup pour cette question qui est posée depuis Béni. J'étais à Béni et j'ai parlé à la fois avec l'armée et la police et bien sûr avec la FIB. Et ce que j'ai dit avant décrivait un petit peu les pressions qui sont exercées sur ADF et la manière dont ils sont en train de bouger, parce qu'ils sont aussi très sophistiqués. La déclaration des États-Unis est une déclaration souveraine et nous prenons note de leur déclaration. Maintenant, sur le travail de la MONUSCO, je remets l'emphase sur le fait que notre rôle est, dans le contexte du mandat du Conseil de sécurité qui nous est donné, de neutraliser les forces et donc d'aller après les groupes armés et donc la FIB et équipée pour faire ce travail. Et je sais, d'après les informations qui m'ont été fournies, que d'ici à fin juin, nous aurons toutes les forces de réaction rapide qui viennent pour améliorer la manière dont intervient la FIB.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Notez ces rendez-vous de la semaine dans le calendrier de l'ONU. 21 mars, une date, trois événements. Journée mondiale de la poésie, journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, journée internationale des forêts. 22 mars, journée mondiale de l'eau. 23 mars, journée mondiale de la météorologie. 24 mars, journée mondiale contre la tuberculose. 27 mars, journée mondiale du théâtre. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site www.radiocapi.net. Radio Capi en un mot. Coordination, Honoré Missenga Kalala. Présentation, Expédie Mwambaboubi. Merci de votre attention. Restez branchés pour la suite des programmes sur la radio de la paix.